Pour jouer et palabrer à l'aise, les deux compères, Jean-Jules et Mohamedou, se sont aménagés un coin dans le manguier, où ils peuvent maintenant monter, même quand il pleut. Ils l'ont fait en creusant l'écorce avec le petit couteau dont Momo ne se sépare jamais, un cadeau de son père. De quoi juste placer les pieds pour monter jusqu'aux plus basses branches. Avant la première entaille, Momo a parlé au manguier, eh oui, pour s'excuser de le faire souffrir, et il a même très mal pris l'éclat de rire moqueur de Jean-Jules. Momo, il dit que tout ce qui est vivant, c'est magique. La vie, c'est magique. On est tous des sorciers, Jean-Jules. Et il le répète assez régulièrement. Bon, d'accord. Jette-moi un sort alors, grand sorcier, lui répond le fils d'Eléa. Enfin, il lui répond ça seulement en saison sèche, étant donné qu'après ce genre de blague, inévitable, il se roule dans la poussière en se bourrant de coups de poing pour rigoler. Or, le seul jour où ils se sont bagarrés sur le sol mouillé, Jean-Jules a découvert que sa mère avait hérité de Ma Hélène le don de la taloche que les fesses n'oublient pas. Donc, en saison des pluies, ils se contentent de s'insulter abondamment. S'appeler et s'entendre appeler grand nègre gringalet et nain crépus teigneux les fait hurler de rire. Un de ces jours, Jean-Jules emmènerait bien Mohamedou à l'ouest, au marché, pour le week-end. Mais d'abord, il faudrait parler de lui à ses parents. Et Momo, c'est son jardin secret. Il ne veut pas le partager. 9 ans. Il fait des passages à l'école, ratant un trimestre par-ci, un par-là, les fois où son père n'arrive pas à boucler les écolages. Il s'en fout un peu. Découvrir, oui, mais pas en restant assis dans une salle poussiéreuse. D'ailleurs, placé au fond comme il est, près de la sortie avec les autres intermittents de l'écolage, il entend à peine la voix lasse du maître. Mohamedou, lui, ça le consterne. Et même, il a exigé que chacune de leurs rencontres au manguier commence par la lecture d'un livre de classe, un des siens. Lesdites rencontres étant quotidiennes, Jean-Jules finit par apprendre 2-3 trucs en maugréant. Ce qui le passionne, lui, c'est le dessin. Il s'y colle dès qu'une feuille blanche lui tombe sous la main. Et Momo en reste baba. On dirait des photos en noir et blanc tellement c'est précis, et tu les fais à toute allure en plus. Mohamedou n'est pas si savant par hasard. Il est le fils de l'imam du quartier musulman, et sa famille a les moyens. Même qu'un jour, il est arrivé au manguier avec un vrai, de vrai, radiocassette nigérian, rafistolé et défoncé, mais en état de marche. Il n'écoute pas les chanteurs du pays. Il écoute les Américains, les Noirs. On peut danser dessus, ça va. James Brown, Aretha Franklin, Al Green, et surtout, Al Jarreau, son préféré. Celui-là, Mohamedou l'appelle l'homme à la voix caoutchouc. Il imite régulièrement ses improbables onomatopées. Jules, écoute, écoute. Et souvent aussi, Jean-Jules, écoute-moi bien. Un jour, je prendrai l'avion, j'irai à un concert d'Al Jarreau, et après, j'irai le voir. Un jour, je serai son ami. Tout ça répété, ressassé, en dansant sur Excuse me if I sing, my heart has found its swing. Plus souvent sur I can be what I want to, and all I need is to get my boogie down, chanté à tue-tête. Jean-Jules n'y comprend rien de rien, mais ça reste tout de même lumineux comme le soleil. Quand ils dansent, tous les deux, les petites filles du quartier se réunissent et s'assoient pour les regarder. Bien sûr, eux râlent pour la forme, ils leur ont interdit de s'approcher du manguier, mais au fond, ça les amuse d'avoir un public. On est les rois du monde, Momo. Éclat brillant de rire. Et puis les jours passent, peu à peu il les laisse approcher, les petites filles, jouent au chef du village sous le manguier pour les impressionner, et même, une fois, ils improvisent une palabre de dignitaire, savourent les regards admiratifs posés sur eux, distribuent les rôles, les couronnes, les CFA, les châtiments, sans trêve, jusqu'à ce que le soleil plonge. Question éloquence, Mohamedou est intarissable sur la nature qui les entoure, animaux comme végétaux. D'ailleurs, il s'adresse à eux comme s'ils allaient répondre. Alors, un jour, il entraîne Jean-Jules dans le circuit resto de Madame Pauline, à deux groupes de maisons de là. C'est une dame gentille et douce, avec les dents proéminentes. Son mari Gaston, lui, n'est pas gentil du tout. Il fait l'homme d'affaires et a toujours l'air de mauvaise humeur. Coup de chance, il n'est pas là. Jean-Jules suit Momo à l'arrière sans poser de questions, cependant que l'odeur du rissos chatouille ses narines. Il se demande quand même ce qu'ils viennent faire dans cet endroit, surtout quand il se retrouve, entraîné par son copain, devant les toilettes, trois murs plantés au milieu de la cour, un trou dans le sol et un tapis de mouches autour. « Regarde là-haut, au-dessus de la chasse d'eau, regarde !» Et là-haut, au-dessus de la chasse d'eau, il y a un margouilla, superbe, avec des reflets bleutés et des rayures rouges dressés sur ses pattes de devant. « Je te présente Albert, Albert le margouilla !» Mohamedou fait mine de s'offusquer devant le fou rire de Jean-Jules. « Un peu de respect pour mon ami Albert, regarde-le !» Momo brave le tapis bourdonnant et lève lentement le bras vers le reptile, qui ne bouge pas une écaille jusqu'à ce que la petite main humaine soit à 10 cm de ses yeux globuleux. Alors seulement il se déplace avec une lenteur incroyable. Jean-Jules n'a jamais vu un margouillat aussi tranquille. Tu vois, il bouge, mais il s'en va pas, et il nous suit des yeux. Albert, je te présente Jean-Jules. Ce dernier s'apprête à exploser de rire, mais finalement reste bouche ouverte, les yeux écarquillés. Albert a bien tourné la tête vers lui, nonchalant, impassible, au moment où son nom a été prononcé. Le lendemain, deuxième épisode, alors qu'ils sont au manguier, les garçons voient soudain surgir Albert sur une pierre d'une maison face à l'arbre. Il ne s'approchera pas davantage, mais il semble bien, parfois, lever la tête vers la branche où ils sont assis. Jean-Jules veut faire croire à une coïncidence, même si le reptile est indéniablement tourné dans leur direction, détail que Mohamedou ne manque pas de souligner, avec un brin d'exaspérante autosatisfaction. Un margouillat apprivoisé. Et puis quoi encore? N'empêche que, le jour suivant, Albert le margouillat est à nouveau là, au même endroit, avec un pote à lui. Mais non, Jean-Jules, ce n'est pas un pote, c'est sa girlfriend, regarde mieux. Le fils d'Eléa hausse les épaules. N'importe quoi. Sauf que, dès le lendemain, Albert apporte une démonstration rapide, mais très convaincante, qu'il s'agit bien de sa girlfriend, même qu'il reste tourné vers eux pendant l'opération. Pour le coup, c'est Momo qui se retrouve décontenancé. Oh, je ne voyais pas Albert s'exhiber de la sorte, il me déçoit. Jean-Jules s'en tient les côtes de rire, au point que Momo, sans cesser de maugréer, doit l'empêcher de perdre l'équilibre. La scène se répète plusieurs jours de suite, et puis Albert se volatilise, introuvable, chez Ma, Pauline ou ailleurs. Les deux compères, après de longues recherches, en prennent leur parti. Mais 3 mois plus tard, surprise, revoilà Albert à son poste d'observation, près du manguier, avec sa girlfriend, et un troisième larron dont la taille et les couleurs trahissent clairement l'origine, Albert Junior. Momo, qui veut toujours tout comprendre, échafaude des hypothèses sur le message que son ami à écailles semble leur adresser, ce qui met Jean-Jules en joie. Pour finir, l'énigmatique Margouilla disparaît et s'attribue avec lui, définitivement. Les garçons évoqueront ce souvenir durant des années, avec nostalgie. Albert, c'est un peu leur enfance. Le monde leur parlait.